I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 537 ou 38, je ne sais plus, du podcast Touchdown. Je suis perdu à cause du spécial Munich en fait.
Je comprends.
Il m'a un peu détourné de mon jeu. 538, allez, 538 à te juger. Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël, on va parler du match fou qui a opposé les Bills aux Vikings, on va parler des Dolphins et on va parler coaching avec la première réussite de Jeff Saturday. Est-ce que ça va bien, Raphaël, d'ailleurs? Je devrais commencer par ça.
Eh ben, écoute, ça va bien. Petit week-end prolongé. On sort d'un beau week-end prolongé, donc ça va très bien.
Ah oui, c'est vrai, il y avait le 11 novembre. J'avais oublié le 11 novembre. J'ai été déconcentré parce que ça a un petit peu décroché. Raphaël, donc ouais, en fait j'étais déconcentré aussi parce que je me suis dit, je lui demande comment il va, et c'est vrai qu'à chaque fois on se dit, on a parlé avant, donc mais ça, vous vous en doutez, chers auditeurs, en fait on s'est dit bonjour, on a pris des nouvelles avant l'entrée.
C'est les mecs qui se détestent et qui
ouais, c'est pour ça que des fois je vais très vite dans mes intros et je me dis peut-être en fait, mais bon, vous comprenez qu'on se parle avant. Bills 30 Vikings 33 après prolongation, un match absolument dingue. Accrochez-vous pour le résumé. Alors attendez, c'est le bruit de ma gourde. Je vais prendre une gorgée d'eau avant de vous expliquer ce qui s'est passé. C'est très radiophonique. Alors, touchdown Vikings à 4 minutes 34 de la fin, mais extra point raté. Donc il reste à 4 points d'écart les Vikings. Punt des Bills, offensive des Vikings, réception folle à une main de Justin Jefferson, touchdown accordé puis annulé parce qu'il n'a pas passé la ligne. Échec sur 4ème et 1, mais pénalité sur les Bills. Nouvel échec sur 4ème et 1. Il reste 50 secondes à jouer, les Bills vont poser le genou au sol. Fumble des Bills, recouvert dans la end zone par les Vikings pour un touchdown qui mène 30 à 27, 41 secondes à jouer. Les Bills ont le ballon, ils vont marquer un field goal pour attraper la prolongation. Les Vikings remportent le tirage au sort de la prolongation, ils ont le premier ballon, ils vont jusqu'aux 2 yards adverses, mais ils se contentent d'un field goal. Les Bills vont en terrain adverse, et là, Josh Allen est intercepté. Fin du match. Buffalo menait 24-0 à la pause, quand même, dans ce match. Ils avaient largement, en tout cas, ils avaient confortablement l'avantage. Raphaël, je te vois faire la moue.
Ouais, je...
24-10, 24-10.
Oui, 24-10,
pardon.
Oui, c'est pour
0,
ça j'avais un petit doute là-dessus. Ouais.
J'ai vu, il y a un 0 dans 10, c'est pour ça, mon esprit il est allé vite. Buffalo menait 24-10, bien sûr, à la pause. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette victoire ou qu'il laisse quand même un peu filer? Et de cette défaite.
J'avais du mal, je savais plus si je devais m'inquiéter pour les Vikings qui sortent de cette victoire-là. Je trouvais ça pas très inquiétant comme victoire, mais
je suis à l'envers, excusez-moi.
Là, pas de problème. Du coup, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette défaite? Oui et non, parce que il y a quand même cette incapacité à tuer le match, et c'est pas la première fois cette saison que les Bills ont cette difficulté à tuer un match. notamment offensivement. Enfin, je dirais même que c'est la deuxième semaine de suite où ils n'arrivent pas forcément à bien s'en sortir à ce niveau-là. Inquiet parce que, mine de rien, on voit quand même une attaque, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas envie de jeter l'opprobre sur Josh Allen ni rien, mais c'est une attaque qui patine peut-être un peu plus qu'en tout début de saison. C'est un peu moins mécanique, il y a un peu plus de défauts de synchronisation, je trouve, avec ses receveurs. Et puis, il y a cette défense qui est bonne, mais qui est quand même perfectible, notamment contre la course, qui a du mal. Alors après, c'est pareil, là ils se font avoir, ils se font aussi battre par un Justin Jefferson qui marche sur l'eau. Mais j'ai envie de te dire que dans un match NFL, tu peux avoir un mec en face marche sur l'eau sur un soir et c'est compliqué à arrêter. Et voilà. Mais plus globalement, structurellement, cette défense, on l'a vu il y a depuis deux semaines, elle a du mal contre la course, elle continue à avoir du mal contre la course. Et c'est là-dessus où c'est inquiétant. Et c'est inquiétant parce qu'on pensait qu'ils allaient rouler sur la saison régulière et mine de rien... Bah, ils sont troisième de division, la dynamique est pas folle, attention quand même, attention.
Mais c'est vrai qu'ils sont troisième de leur division, parce que les Dolphins et les Jets sont très forts aussi. Tu l'as dit, ils prennent 5,9 yards par course sur ce match, donc Dalvin Cook, il a 8,5 yards par course, bon, il a une course de 81 yards évidemment, mais voilà, 119 yards sur seulement 14 portées, c'est vrai que c'est un des points faibles assez majeurs. Est-ce que du coup c'est pas un peu dans les tranchées d'ailleurs, parce qu'ils perdent dans les tranchées en défense? Et en attaque, il y a quand même toujours cette absence de jeu au sol. Tu dis, ils ont du mal à finir les matchs. Bah, ça peut servir pour finir les matchs. On l'a vu avec Tampa, on l'a vu.
Non, effectivement, encore une fois, Josh Allen est le meilleur coureur de son équipe en termes de en termes de yards. C'est difficilement, tu peux difficilement tenir toute la saison comme ça. Ouais, il y a un problème au niveau des tranchées. Après, sur le run block, je sais pas si ça ne vient que de la ligne offensive, tu vois. Je trouve aussi que Singletary n'est pas toujours très inspiré dans ses moves. Il n'a pas une grande capacité à gagner du yard après contact comme un Derrick Henry peut le faire. Il n'a pas les appuis d'un Nick Chubb qui casse des plaquages ou qui est capable de cutter et de changer de direction au dernier moment. Donc, le manque de talent, je trouve, dans les squads de coureurs associé à une ligne qui en run block n'est pas particulièrement bonne, que j'ai envie de dire médiocre, fait que voilà, ça patine et donc du coup ils ont tendance à être trop unidimensionnels et à trop compter sur Josh Allen, Stephen Diggs, et ouais, ça passe pas dans une saison où les défenses sont opportunistes et au taquet, donc c'est forcément à surveiller pour eux. Ouais.
On n'a pas mentionné son nom, ça veut dire que Josh Allen et à un pass pour cette fois, sa dernière interception est quand même très vilaine.
Il a encore une fois, ouais, des passes pas très bonnes. Je sais pas s'il a un pass. Il est pas particulièrement bon sur ce match. Il l'a pas été contre les Jets. Ça fait deux matchs de suite qu'il est pas bon. Maintenant, il a un peu prouvé avant qu'il l'était. Donc on va peut-être pas non plus le jeter sous le bus après deux matchs. Mais oui, il est pas dans une bonne phase. Mais à l'image, je trouve, de cette équipe de manière globale, qui est pas très inspirée. Même McDermott. Bon, personne ne l'est.
Ils étaient face, tu l'as dit, à un Justin Jefferson intenable. 10 réceptions, 193 yards, un touchdown. Cette réception à une main complètement folle, où il retombe en arrière, résiste au défenseur qui a quasiment une main dessus aussi. Enfin, il y a la totale. Évidemment, Jefferson, c'est incroyable. Mais Kirk Cousins, quand même, mine de rien. On était prêt, alors moi le premier, le fusiller après le début de match. Je me rappelle avoir dit sur le Slack de la rédaction, quelqu'un lui a fait croire qu'on était en prime time. Mais il faut quand même lui reconnaître qu'il s'est très très bien repris derrière. Il finit avec 357 yards à la passe au compteur, un touchdown, deux interceptions, mais surtout il a été décisif en fin de match. Il y a eu des lancers très importants, il y a des lancers très très difficiles que réussit Kirk Cousins, que peu de quarterbacks peuvent faire en fait. C'est vraiment un drôle de joueur en fait, un Cousins, parce qu'il peut être un des meilleurs sur certaines actions et faire des erreurs terribles.
Mais en fait, il est vraiment le baromètre de cette équipe. Encore une fois, il marque un touchdown sur le premier drive, et derrière, ils ont du mal à marquer des points. Et je me suis dit, ah bah ça va être le match classique des Vikings, où, comme on en parlait cette semaine, t'as un touchdown, puis derrière t'as 4-5 punts avant que les mecs repassent la seconde. Et là, il n'y a pas 4-5 punts, mais il y a quand même des quatrièmes tentatives ratées, des punts, des interceptions. Bref, tout est un peu mélangé avant qu'en deuxième mi-temps, ils se mettent à réenchaîner les touchdowns. Et oui, c'est le baromètre, parce que comme tu le dis, il y a des superbes réceptions de Justin Jefferson, mais il y a des passes où Kirk Cousins met le ballon au seul endroit possible où Jefferson est le seul joueur à pouvoir la prendre et pas son défenseur adverse. Je pense notamment à la première passe de touchdown pour Jefferson, elle est magnifiquement placée. Donc oui, c'est le baromètre de cette équipe. Ils vont manifestement mourir ou survivre avec les erreurs de Kirk Cousins. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je sais pas, pour le moment, ça sourit. Et là, du coup, moi, à 8-1, j'ai envie de dire que c'est aussi le coaching qui est à mettre en avant. Parce que ces matchs-là, ces deux, trois dernières saisons, il les gagnait pas avec... Ces deux dernières saisons, notamment, j'ai envie de dire. Il les gagnait pas avec Mike Zimmer, ces matchs-là. Ça tombait jamais de leur côté. Là, ça tombe de leur côté. Et je trouve que ça se voit aussi sur le coaching, sur comment il a redonné vie un peu à cette escouade de vétérans en défense. Parce que la défense, elle est blindée de joueurs d'expérience. Les Patrick Peterson, Kendricks, Hunter, Za'Darius Smith, enfin... C'est des joueurs vraiment, Harrison Smith, tout ça, c'est des joueurs qui avaient pour la plupart vécu une saison assez compliquée l'an dernier. Ils reviennent tous à un gros niveau. Voilà, et moi j'y vois quand même la patte du coaching de ce coach qui amène le petit surplus, qui te fait passer le palier que t'attendais en fait et que tu n'arrivais jamais à passer avec Mike Zimmer. Et à 8-1, si je dis pas de bêtises, en bilan, c'est pas un hasard en fait, c'est pas juste de la chance que les matchs continuent de tomber dans leur escarcelle, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc. Voilà, je pense que maintenant on sait à quoi ressemblent les Vikings. C'est ça, c'est une équipe qui va avoir des hauts, des bas, qui est le baromètre Kirk Cousins. Il va faire des bonnes choses, des fois il va se planter. Bon, ça peut passer dans cette année un peu folle, ça peut passer.
C'est exactement ce que tu dis au sens où ils ont toutes les armes. Ils ont une défense de vétéran qui peut faire des coups, ils ont un top coureur, un top receveur. Et Cousins va être le baromètre de ça. Et la question, ça va être de savoir si, parce que maintenant les playoffs semblent en vue, hein,
ouais.
si il peut maintenir ça sur plusieurs matchs de playoffs de suite. Déjà qu'ils sont irréguliers en un match, est-ce qu'ils pourront être... Voilà. Mais après, typiquement, c'est une équipe qui peut prendre feu sur une campagne de playoffs aussi. Ça se trouve, avec une équipe comme ça, si ça prend feu sur trois matchs de suite, on l'a déjà vu avec un Joe Flacco, on l'a déjà vu avec d'autres équipes, voilà, hein, où c'était assez inattendu, avec des quarterbacks qu'on n'attendait plus. Mais c'est vrai que la leçon de ce match, elle est quasiment là, je trouve, c'est qu'ils ont tout, mais tu sais que tu peux pas dire ils sont favoris ou ils vont marcher sur des gens parce que il va y avoir des très hauts, il va y avoir des bas, et Cousins sera toujours le baromètre de ça, comme tu l'as dit. Quoi.
Moi, là où je les trouve très durs à analyser, et je trouve que c'est une équipe qui ressemble à pas grand-chose d'autre qu'on a vu ces dernières saisons, parce que souvent, quand on voit des équipes faire des runs en play-off, ce sont souvent aussi des équipes qui étaient un peu moyennes en cours de saison régulière et qui, tout d'un coup, vont avoir un coup de boost en play-off. Les Giants l'ont fait, les Eagles l'ont fait. Enfin, et t'as ce coup de boost en play-off et... Sauf que là, les Vikings, ils sont bons d'entrée... Enfin, le coup de boost, on a l'impression qu'ils sont en feu d'entrée de jeu. Alors pourtant, dans les stats, quand tu regardes de manière un peu plus précise, la défense, elle n'est pas spécialement top 10 dans les stats avancées. L'attaque n'est pas spécialement top 10 dans les stats avancées. Ils sont pas particulièrement excellents nulle part. Enfin, ils sont excellents nulle part, mais ils sont déjà en feu. Alors, est-ce qu'ils sont capables de maintenir cette dynamique-là? C'est une drôle d'équipe, ouais.
En fait, c'est ça, c'est qu'ils sont excellents, mais par très courte période.
Ouais, vraiment très courte, hein, parce que sincèrement...
Ouais, c'est des éclairs.
Ouais.
C'est des éclairs, donc clairement, statistiquement, ça se traduit pas, parce qu'ils ont tellement des trous énormes, tu le disais, avec des 5, 6, des fois, je sais plus, il y a un match où c'était 7 ou 9 points à la suite. Donc, c'est comme tu disais, c'est un truc quand même assez atypique, mais le talent est là, et le bilan, il est quand même de 8-1, c'est ça qui est quand même... qui est quand même délirant, hein. 8-1 pour les Vikings, qui ont donc deux victoires de plus que les Bills, hein. C'est pareil, on ne l'aurait pas parié probablement à mi-saison pour ces deux équipes. En tout cas, ça file vers les playoffs. Même si tu le disais, les Vikings ont un chemin plus clair en haut de leur division. Les Bills, ça commence à s'accrocher, mine de rien. Les matchs de division à venir vont être très importants. Il leur reste les Jets à jouer une fois, les Patriots à jouer deux fois et les Dolphins à jouer une fois. Donc il va falloir s'accrocher. Et ils ont perdu le premier contre les Dolphins et ils ont perdu le premier contre les Jets.
Non, je dis pas tout de suite panique et Buffalo, mais attention parce qu'en plus... En AFC, pour le coup, la place en wildcard, tout le monde est derrière à une victoire max des Bills. Hein. Ça peut.
Après, encore une fois, pas encore de panique, car ça reste une équipe très talentueuse. Et Josh Allen, on n'a pas parlé de sa blessure, mais bon, honnêtement, il y a l'interception de fin, mais quand on voit les stats et le jeu qu'il a pendant le match, s'il est sur le terrain, c'est qu'il est apte, hein, a priori.
Ouais, ou alors, excusez-moi du terme, mais il réfléchit pas beaucoup sinon. Enfin, s'il est pas apte physiquement, parce que quand on voit comment il va au contact quand il court.
En plus, ouais.
Bon, j'espère qu'il le fait de manière très consciente quand même, hein, parce que.
Ouais. C'est vrai qu'il prend des sacrés chocs. Hein. Dolphins 39, Browns 17. Les Browns menaient 7-0, et puis derrière, ils ont pris 24 points de suite. Il n'y a pas eu trop de suspense après ça. L'intérêt de ce match, c'est quand même, Raphaël, que Tua Tagovailoa s'éclate. Il a touché 8 cibles différentes, 3 receveurs différents pour des touchdowns. Il a une fiche de 25 sur 32, 285 yards et 3 touchdowns. Le pari de la saison s'était confirmé. Tua Tagovailoa à Miami, on peut dire déjà qu'ils ont gagné leur pari de la saison.
Bah, je crois. Après 10 matchs, ça paraît assez évident que cette équipe est bien conduite, bien drivée par Tagovailoa, qui bien sûr profite de ces deux receveurs faufolés qui ont cette capacité à prendre du yard après catch sans aucun souci. Il en profite. Maintenant, pourquoi lui reprocher de profiter d'avoir des bons receveurs ? Enfin, je veux dire, t'as d'autres joueurs de légende qui ont eu des bons receveurs et on leur met pas ça dans les pattes. Donc voilà. Et puis franchement, il est très précis, il est très bon dans tout ce qu'il fait actuellement. Il fait pas d'erreur, il joue juste en fait. Moi, je trouve que depuis trois semaines, il joue quasiment à la perfection. En fait, il fait ce qu'il y a à faire.
C'est ça, en fait, surtout, c'est qu'au-delà maintenant, tu vois, là, même Tyreek Hill ne fait pas un gros match pour ses standards, il a 44 yards. Donc là, c'est vraiment un match hyper intéressant au sens où, bah ouais, il a distribué, il a été très très fort. Moi, je dois le dire, j'y pensais en préparant l'émission, je me disais, j'étais un des premiers critiques de Tagovailoa et qui pensait qu'il passerait pas ce cap et que ce serait peut-être l'année de trop. Bah écoute, je pense qu'on n'est pas les derniers, je pense qu'on n'a jamais pensé qu'on distillait la vérité absolue dans ce podcast et qu'on essaye de ne pas agir comme, donc ça ne me pose pas du tout de problème de dire que je me suis gouré, et je pense qu'on le montre en mettant les émissions rétro en ligne cette année, qu'on n'a pas peur de se moquer de nos avis. Donc voilà, je me suis gouré sur Tagovailoa, il est impressionnant, il distribue bien, et tu parlais de coaching, c'est un ensemble hein, de toute façon de football américain, l'arrivée de Mike McDaniel, c'est aussi une réussite, parce qu'il y a 195 yards au sol pour accompagner Tagovailoa. Alors c'est une des attaques les plus impressionnantes hein, d'ailleurs, mine de rien, parce que t'as Tagovailoa qui est hyper à l'aise, et t'as 195 yards au sol, là Jeff Wilson qui arrive des 49ers qui en colle 119, c'est très très fort hein, mine de rien. L'ensemble de cette attaque, c'est une des attaques les plus faciles de l'année pour l'instant, en fait.
Ah, largement, bah c'est d'ailleurs, je trouve, aussi des enseignements de ce match, c'est que le jeu au sol est en train de décoller du côté de Miami. Mike McDaniel, ça a peut-être mis un peu de temps à installer son système de blocking en zone, qui ressemble à beaucoup de choses en termes de système de jeu à celui des 49ers. Hein. C'est un peu le même système de jeu de course. Ça a mis un peu de temps à mettre en place, et c'est peut-être pas un hasard qu'il ait fait venir d'ailleurs Jeff Wilson et Morstead, qui aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de hasard qu'il ait pris ces coureurs-là en comité. Mais voilà, c'est en train de décoller, et du coup, on avait une attaque qui jusque-là, gagnait beaucoup de yards à la passe et beaucoup de yards après contact, après catch plutôt à la passe. Si en plus ils arrivent vraiment à installer ce jeu au sol comme ils l'ont fait sur ce match-là, s'ils arrivent à garder cette constance-là, offensivement, à mon sens, depuis le début de la saison, c'est largement top 5 en termes d'attaque, d'explosivité, de régularité, de ce qu'on voit. Donc ouais, c'est des équipes en NFL. Aujourd'hui, Miami, t'as l'impression que c'est une des rares équipes en NFL où tu peux quasiment être sûr qu'elle a la capacité de mettre 30 points dans un match. Il y en a pas tant que ça cette année, des attaques comme ça. Et eux, ils sont dans cette catégorie-là. Donc c'est au crédit de Tagovailoa, c'est au crédit de McDaniels, bien sûr, qui lui aussi, je trouve, encore une fois, un peu comme O'Connell du côté des Vikings, t'as l'impression qu'il a réussi à faire passer un petit cap en plus à cette équipe. Et là, la défense, pour le coup, a été bonne. J'avais un peu peur qu'ils prennent l'eau à la course contre Nick Chubb, et ça n'a pas été le cas. Ils ont plutôt bien défendu la course. Donc, ils prennent la tête de la division.
Tu crois que la prochaine étape pour McDaniel, après Wilson et Mostert, c'est de faire venir Garoppolo, du coup, les Ce serait audacieux.
Tu sais quoi, moi je crois pas, parce que j'ai quand même déjà vu Tagovailoa réussir plus de passes en profondeur que Garoppolo. Oui, donc j'ai l'impression que le playbook est déjà un peu plus large.
Je plaisante. Non, mais justement, c'est presque l'inverse. Je me demande ce que les 49ers feraient avec Tagovailoa maintenant. Presque, ils seraient contents de l'avoir.
Bah, je pense aussi. Bah, après, bah, sinon, il a qu'à essayer de faire venir, je sais pas, un petit George Kittle. Ça, c'est pas mal, ça. Tu rajoutes un petit Kittle dans cette attaque.
Ah ouais, là, ça commence à faire peur. Ça là, commence Waddle, à être... Il, Kittle. Bon, t'es quand même pas mal. Du côté des Browns, donc ils ont pris quasiment 500 yards. On l'a dit, c'était difficile de défendre contre tous ces secteurs de Miami qui commencent à bien performer. Qu'est-ce qui manque offensivement à Cleveland, là, qui est quand même vraiment retombé très très dur sur terre après la belle victoire contre les Bengals? On l'a dit, hein, la défense a souffert, mais alors la défense a souffert. J'ai pas précisé, les Dolphins n'ont pas punté de tout le match. Quand même,
hein. Ce qui aide pas en général une équipe quand t'arrives pas à faire punter ton adversaire.
Ouais, donc ce qui est quand même, je sais pas si c'est inquiétant, mais on attendait un peu plus de cette défense de Cleveland, mine de rien, quand même, de Myles Garrett et compagnie.
Ah, complètement. On les voyait être capables d'aller chercher, de mettre en position Cleveland pour gagner un peu plus de matchs, et notamment grâce à son jeu au sol, Nick Chubb, tout ça. Et finalement, c'est arrivé très peu cette saison. La semaine dernière contre les Bengals, et c'est à peu près tout. Donc, oui, la défense est décevante. L'attaque est patine, mais en même temps, je trouve qu'à partir du moment où la défense prend des points sur quasiment chaque drive, comment tu veux suivre ce rythme? De toute manière, ça me paraît biaisé d'office. On savait que ça allait être compliqué en attaque. Bon, bah, Jacoby Brissett est limité, et il n'arrive pas à suivre ce rythme-là.
La prochaine étape, c'est le retour de Deshaun Watson à l'entraînement cette semaine. Et ensuite, semaine 13, il va s'entraîner pendant 2 semaines et il reprendra en semaine 13 en match officiel pour Cleveland. Mais à 3-6, 3 victoires, 6 défaites, ça commence quand même à ressembler à une saison perdue. Là, ça va être de l'échauffement pour Deshaun Watson pour la saison prochaine.
Il n'a pas joué depuis un moment en plus. Hein, donc
Bah oui, plus d'un an et demi maintenant sans match. Donc ça va être du réglage pour l'année à venir, ce qui attend Cleveland maintenant. Le dernier match, c'est celui entre les Raiders et les Colts. 20 pour les Raiders, 25 pour les Colts. Las Vegas menait 20-19 dans le dernier quart. Paris Campbell a marqué à 5 minutes de la fin pour faire passer son équipe devant. Les Raiders ont eu un dernier ballon, mais ils ont échoué sur 4e tentative en terrain adverse. Ça donne la première victoire des Colts dans l'air Jeff Saturday, une ère très contestée. Alors, avec la plus grosse surprise, peut-être, est arrivée même pas une heure avant le match, Matt Ryan, de nouveau titulaire. Alors, ça, on l'avait pas vu venir, puisque de toute façon, il nous avait annoncé le contraire quand il avait pris son poste, hein, Jeff Saturday. Matt Ryan, 21 sur 28, 222 yards et un touchdown, aucune interception, aucun ballon perdu, un seul sac encaissé, et Jonathan Taylor au sol, 147 yards à 6,7 yards par course. Et ben, on a retrouvé les Colts qu'on attendait. Raphaël, premier match pour le coach Jeff Saturday, qui a quand même été pas mal chahuté, hein,
oui,
notamment par
les
médias US pendant toute la semaine. Il y a même des anciens joueurs, anciens coachs qui l'ont fusillé assez publiquement. On en parlait un peu avant l'émission, je sais plus ce qu'on avait dit nous exactement dans l'émission. C'était évidemment un pari osé. Après, c'était un ancien joueur.
C'était un peu moqué quand même. Pas de Saturday, voilà. Plus de Hirsey. Plus de Jim Irsay, ouais. Ouais. Nous c'était plus notre angle.
Parce que en plus je crois que nous on l'avait appris en live, donc c'était vraiment un truc hyper inattendu, on l'avait pas du tout vu venir. Après, bon voilà, ancien lineman, expérimenté, etc. Donc visiblement il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience, Raphaël, pour être coach NFL.
Écoute, je sais pas, on va voir combien de temps ça dure, mais finalement, Jeff Saturday, quand il arrive dans cette posture-là, il l'avait déclaré avant ce premier match, hein, où il disait que lui, il était là plus en tant que meneur d'hommes, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que ça fait un peu opposition et contre-pied à tous ces head coachs nommés pour leur soi-disant génie tactique, que ce soit offensif ou défensif, comme celui d'en face.
Façon, voilà, j'allais dire, le contraste, il est terrible pour Josh McDaniels dans ce match.
Comme celui d'en face, et à quelque part, je trouve ça intéressant. Alors, faut voir si Saturday arrive à le confirmer, combien de temps ça peut tenir, et je pense que ça peut aussi dépendre de comment il s'entoure au final. C'est ça qui est important. Mais c'est un peu la question de, est-ce qu'un head coach en NFL, il a géré un groupe de 53 joueurs, plus des coachs, des assistants, des coordinateurs, et à quelque part, est-ce que c'est pas avant tout un meneur d'hommes et quelqu'un qui doit conduire et imposer des idées, des principe plus qu'un génie tacticien qui doit faire du play calling en fait. Et Saturday, c'est un peu ce qu'il laissait sous-entendre dans sa conf de presse, qu'il était plus de cette école là de cette deuxième école, on va dire, ce qui à certains égards peut rappeler d'autres coachs dans d'autres sports, enfin bon bref, toujours un peu ces deux écoles, hein. Est-ce qu'un coach doit être tacticien ou juste un meneur d'hommes? chacun se fera son avis, mais je trouve ça intéressant que ça, surtout sur ce match, que ça fasse, comme tu le dis, le contraste avec un McDaniels qui est supposé être un génie offensif, ou du moins qu'il l'a été, bref. Et quand tu vois comment Saturday est revenu à quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas vu faire les Colts de toute la saison, hein. Quand c'était Matt Ryan en début de saison, les Colts lançaient 50-60 ballons. Là, Matt Ryan lance moins de ballons qu'il n'y a de portée. Ils sont revenus à une identité de base qui est plus de courses et des passes courtes et intelligentes de Matt Ryan. Et ça apporte une victoire. Ils sont revenus à des fondamentaux. Il a clairement remotivé les troupes parce que vraiment les joueurs avaient l'air d'être beaucoup moins perdus que sous Frank Reich. Il y avait plus d'envie, plus de motivation. Je sais pas combien. Encore une fois, je sais pas si ça va marcher sur le long terme. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais je trouve cette première intéressante sur ce que ça dit, mine de rien, du métier de coach en fait en NFL.
Le débat il est sans fin et il est hyper intéressant parce que ce que tu disais, dans le sport pro, les joueurs souvent ils savent quand même ce qu'ils doivent faire. Alors le football américain c'est encore un niveau différent parce qu'il y a beaucoup de tactiques, etc. Mais de toute façon, quels que soient les coachs, tu prends même un Bill Belichick ou un Andy Reid, Bill Belichick c'est plus un spécialiste défensif, donc comme tu dis, il faut savoir aussi s'entourer, c'est-à-dire qu'il a trouvé des mecs pour s'entourer, pour l'attaque, etc., même si évidemment il connaît aussi. Andy Reid, à l'inverse, ça va être un coach plus offensif, donc il fallait trouver pour s'entourer en défense, et ainsi de suite. Et donc en effet, le coach NFL, il peut avoir l'air d'un super manager, quoi, la plupart du temps. C'est aussi ça. Et après, si tu regardes dans d'autres sports, c'est ce que tu disais, le côté meneur d'homme, il y a quand même des clients... Pas vilain. Alors pour ceux qui suivent la NBA, tu prends Phil Jackson. Phil Jackson, il a toujours été plus connu pour les bouquins qu'il donnait à ses joueurs, les techniques zen et les méditations dans le vestiaire que pour ses schémas tactiques. Parce que, alors je fais un petit aparté basket très très court, mais on va me dire Phil Jackson, c'est l'attaque en triangle, etc., etc. Sauf que c'est pas lui qui l'invente, c'est Tex Winter, un de ses assistants, qui invente l'attaque. Phil Jackson, c'est vraiment une super nounou en fait, c'est une super nounou de star. Il est pour Jordan, Rodman, Pippen. Après, on l'emmène aux Lakers, on lui dit il y a Shaquille O'Neal et Kobe Bryant qu'il faut cadrer, il gagnait pas avant, il les fait gagner. Et en fait, tu vois, je prends le foot, alors dis-moi si je dis une énorme erreur, mais tu vois, on gagne la Coupe du Monde 98, Didier Deschamps est pas reconnu pour être un grand tacticien, c'est plus un pragmatique, si je comprends bien.
2018, tu veux dire. T'as dit 98, 2018. Mais...
2018,
ouais, ouais. Pardon. Oui, effectivement, tu peux aussi citer récemment qui réussissent au Real de Madrid, Zidane ou Ancelotti, qui sont coachs pas réputés particulièrement pour leur aspect tactique, mais qui sont réputés pour être des meneurs d'hommes et plutôt des psychologues, on va dire ça comme ça. Et ça va gagner parce que, et c'est à quelque part, c'est pas illogique dans des sports où t'as autant d'ego qu'il y a un moment où peut-être ce qui prime davantage, c'est ta capacité à mettre ces gens-là en bonne situation. Donc, alors après, bien sûr, tous les sports sont pas exactement pareils, il y a des nuances à apporter. Et je pense qu'en NFL, un coach meneur d'homme, il va avoir un moment ou un autre besoin de s'entourer de play-callers intelligents et de gens capables de designer des trucs intéressants. Mais malgré tout, pour cette ordre, ça a marché sur ce match. Vraiment, en revenant encore une fois aux basiques des Colts, ce qu'on attendait, et pas les 50 passes lancées par Matt Ryan en première semaine.
Alors, je reprécise évidemment, on ne vient pas de comparer Jeff Saturday à Phil Jackson, Didier Deschamps, Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti. C'était vraiment parce qu'on aime bien ce débat. Voilà, vous l'avez compris, on aime bien ce débat. Et on aurait pu faire quasiment toute l'émission là-dessus. Je mentionne quand même Parks Frazier, qui a appelé les jeux offensifs, la trentaine. Et qui a en effet des fois aussi c'est du bon sens, j'ai envie de dire. Tu disais là les 60 passes lancées par Matt Ryan, lui c'est aussi un play calling de bon sens en fait, c'est à dire qu'il a Jonathan Taylor et là Matt Ryan il s'est dit il y en a un qui est un peu plus jeune que l'autre et qui est un peu en meilleure forme, et je vais faire jouer Jonathan Taylor, quoi.
Mais je trouve que c'était la preuve aussi que Frank Reich avait un peu perdu le fil finalement. Il s'était un peu perdu dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il n'arrivait plus à faire. Et que là, juste remettre un peu tout le monde droit devant et dans le bon sens, ça suffit à aider cette équipe des Colts à dominer, et on peut enchaîner là-dessus, et dominer une équipe des Raiders qui, elle, par contre, semble perdue d'une semaine sur l'autre. On est absolument incapable de dire ce que sont les Raiders.
Ah oui, non mais alors déjà, ils sont, comme tu l'as dit, ils sont perdus. Ça, on le sait, ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont perdus.
Oui, en dehors de...
Ils ont gagné que 309 yards, ils ont été pénalisés 10 fois. Alors oui, il manque Renfro, il manque Waller, etc. Mais tu peux pas présenter ça. Et c'est là où le côté meneur d'homme, on avait vu que ça s'était écroulé pour Josh McDaniels à Denver. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas du tout, j'en sais rien. Alors peut-être que je connais pas Josh McDaniels, c'est pas une attaque sur l'homme. Mais peut-être qu'il n'est pas suivi. Alors je sais pas si t'as vu, Derek Carr était quasiment en larmes en conf de presse. Ils sont perdus, quoi. C'est terrifiant.
Non, mais comme tu dis, c'est assez terrifiant. En fait, ce qui est problématique, c'est que d'une semaine sur l'autre, vraiment, encore une fois, le visage est absolument jamais le même du côté des Raiders. Mmh. On a eu le premier match de la saison où tu avais 17 passes, j'exagère peut-être sur le nombre, mais 17 passes pour Davante Adams, c'est rien pour les autres. Puis les semaines suivantes, c'était Josh Jacobs qui était nourri et personne d'autre. Et là, c'est à nouveau Davante Adams, on ne voit que lui. Et puis la défense fait un match sur 3, un match sur 4. Mmh. Donc oui, on ne sait pas vraiment vers quoi tend les Raiders. Franchement, dans le côté négatif, c'est une des plus grosses surprises négatives de la saison. Parce que qu'on soit sceptique sur McDaniels, qu'on ait toujours trouvé des limites à Derek Carr, on peut avoir plein d'arguments qui fait qu'on ne voyait pas les Raiders en playoff ou pas forcément... Enfin, bref. Mais alors, de les voir à 2 victoires, si je dis pas de bêtises... Ouais, c'est ça, 2 victoires. Enfin, je... Ouais.
Ouais, 2 victoires. Non, mais c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment inexplicable. Et tu le disais, c'est une des pires déceptions de la saison. Je pense que Josh McDaniels coach déjà pour sa place. Hein.
Je crois.
En fait, ouais. C'est d'autant plus inexplicable que c'est une équipe qui est en playoff l'an dernier, en fait. C'est surtout ça.
Exactement. C'est là où je suis d'accord, c'est que... Si on va dire ils étaient encore en course pour aller en playoff, mais qu'ils finissent la saison limitée, tu vois, je te dirais c'est explicable parce que, à mon sens, c'est une équipe qui manque de talent, notamment en défense. Donc que cette équipe n'arrive pas à passer un palier, moi je pense que c'est à cause du talent. Mais là, le problème, c'est que s'écrouler par rapport à ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est le même effectif qui s'est presque amélioré à 2-3 égards, à 2-3 postes près, quoi. Donc tu peux pas t'écrouler comme ça sans remettre en question forcément le coaching. Donc ça pose question, mais pour plein de choses, hein, pour McDaniels. Moi je suis pas sûr que Derek Carr se soit passé la dernière saison à Las Vegas.
Je suis plus là.
Non mais tu vois, si Las Vegas a un top 3 pick.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que
ça peut commencer à être haut?
Est-ce que si vraiment il y a un jeune quarterback qui a un potentiel qui paraît bien plus fort que celui de Carr, tu te jettes pas dessus, tu vois? Moi, je...
Bah, et puis d'autant que les Commanders te donneront un choix du premier tour pour Carr, donc...
Voir Indianapolis et Ballard, mais...
ouais, un des deux, quoi. Il y a un des deux qui va clairement te donner un premier choix pour Derek Carr.
Non, clairement, cette équipe des Raiders, c'est pas juste une question de talent. Là, pour moi, c'est le coaching et...
Mais comme dit, hein, l'opposition entre les deux était terrible, hein, du coup, parce que perdre pour McDaniels, c'est qui est déjà en difficulté, perdre contre Jeff Saturday, qui était raillé quasiment pendant toute la semaine.
Qui est arrivé, quoi, 6 jours avant, peut-être
Oui, c'est ça. Il est arrivé, c'est quand même très, très dur. Mais c'est assez triste, hein, pour cette franchise, même pour Derek Carr, qui a plutôt l'air d'être un mec plutôt...
Bah, clairement, très bien.
Plutôt sympathique, ouais. Donc franchement... donc bon. Voilà, très 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 compliqué pour cette équipe. Un dernier mot pour les Colts, ils sont à 4 victoires, 5 défaites, 1 nul, mais ils ont un calendrier quand même très difficile, donc je pense qu'on va pas s'enflammer pour la course au playoff. Ils sont loin des Titans, hein, dans leur division, et là derrière ils jouent Eagles, Steelers, Cowboys, Vikings, Chargers, Giants, Texans.
Ouais, ça va être compliqué. Pour moi, l'intrigue de la saison, en fait, c'est est-ce que Jeff Saturday va assez montrer pour garder le poste. Pour moi, c'est vraiment l'intrigue, quoi. C'est
après, je pense que, enfin, ça Irsay a l'air de vouloir le garder, enfin il a l'air de l'avoir pris. Tu vois, ils ont fait une conf de presse par exemple pour présenter leur coach intérimaire, ça ne se fait jamais.
Ouais. Non mais.
Tu vois,
ouais,
conf de presse où ils étaient tous les deux, machin, et tout, il n'y a jamais ça pour un coach
intérimaire.
Mais
apparemment, il y a quand même certains médias qui disent que ça a été fait aussi un peu contre l'avis du general manager.
Oui.
Hein, donc.
Ça c'est.
Il y a quand même une intrigue là-dessus à suivre, hein, franchement.
Tu sais que Jim, c'est un grand sentimental. Si Jeff il en gagne encore deux autres, il virera tous les autres. il va dire ah bah là, allez, dégage, tu vois, c'était lui que je voulais.
Bah écoute, ouais. Ouais, je.
Écoute. Il faut du Jim Irsay dans notre vie pour contrebalancer Dan Snyder.
C'est
la loi de la nature.
Je sais pas. Je suis pas sûr que Jim Irsay soit tout propre.
Tu crois? J'ai tendance à penser que Jim Irsay se fait surtout du mal à lui-même. Mais
ouais.
Je sais pas. Hein, après, on les connaît pas.
Non, mais disons que vu les réputations de bon buveur qu'il a,
oui.
Je me dis qu'une main baladeuse, elle est.
Ah, tu crois? Ouais, écoute. On ne le souhaite pas.
Milliardaire alcoolique, bon.
on verra bien.
Pardon pour la digression.
Ouais, mais... on les connaît pas bien, de toute façon, les propriétaires NFL. Une fois, j'ai croisé Arthur Blank dans un couloir au Super Bowl, le propriétaire des Falcons.
Ouais.
Voilà, c'est tout. C'était la seule anecdote que j'ai avec un propriétaire NFL. J'en ai jamais vu d'autres et on n'a pas parlé. C'est tout. Ah si, j'ai vu Robert Kraft dans le vestiaire des Patriots. Mais tu vois, à l'époque.
Ah, j'ai vu Robert Kraft aussi.
Tu vois, mais à l'époque, je pouvais pas me douter de ce qu'il faisait de ses après-midi dans les spas floridiens, tu vois, par exemple.
Bah, ouais.
Bon, allez, on va se quitter sur ce moment de gêne. C'est la fin de l'épisode numéro 538. tdactu.com pour l'actu de la NFL, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, et on se retrouve donc demain pour, c'est encore avec toi Raphaël et Lucas,
et ben il me semble bien, oui,
yes, pour le débrief complet de tous les autres matchs de la semaine 10. On se quitte là-dessus et à très vite sur les antennes de TD Actu. Et n'oubliez pas, il y a un podcast spécial sur l'ambiance à Munich, il est sur le votre flux parce que c'était ouf.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global, Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.